va s'intéresser à ce roman de KPDP qui visiblement a l'air de retrouver du tonus avec des auteurs qui nous servent de véritables romans de KPDP, en tout cas dans la pure tradition, et puis d'autres peut-être qui vont justement comme vous les revisiter un peu le genre, en tout cas lui apporter une plus-value. Ça, on va en discuter évidemment tout au long de ce café littéraire. Moi j'ai envie de commencer avec Charlotte. Vous étiez le coup de cœur l'année dernière. Et vous êtes un auteur extrêmement éclectique. Parce que moi, quand j'ai ouvert Vénénum, je me suis dit, bon, je vais y retrouver de la SF ou de la fantasy ou quelque chose comme ça. Et non, c'est un pur roman historique de KPDP.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a pris?
En fait, c'est mon troisième. J'écris des romans, des polars historiques pour cette collection Courant Noir qui donc est dédiée aux polars historiques et aux romans noirs. Et en fait, ça faisait 2-3 ans. Que j'avais envie d'écrire quelque chose qui se passait au XVIIe siècle. En plus, il se trouve que je suis une ancienne escrimeuse.
Suite, vous maigrez une question.
Et c'est pas fini. Et j'ai toujours adoré faire l'escrime et théâtre. Et donc, c'est un truc qui est vraiment resté, qui est vraiment resté ancré. Et en fait, j'ai eu mon directeur de collection m'a demandé. De choisir quelque chose, voilà, est-ce que tu n'aurais pas un projet à m'envoyer. Ça a coïncidé avec la parution d'articles sur un historien de la philosophie allemand qui a découvert que Descartes serait visiblement pas mort de la grippe ou de pleurésie comme le veut la tradition, en tout cas en France, mais a été bel et bien assassiné, empoisonné à l'arsenic. Et évidemment, les universitaires français, et en particulier à Paris 4, ce sont vraiment des conservateurs, se sont pressés de dire que c'était n'importe quoi. Sauf que quand on va fouiller réellement dans les lettres de l'époque, ce qui s'est passé effectivement, il y a tous les symptômes d'un empoisonnement. Donc c'est venu un petit peu comme ça. Donc Descartes et l'escrime.
C'est un bon point de départ. Pierre Pével, le roman de KPDP. Pourquoi alors justement, voilà, même si on va voir effectivement qu'il y a des spécificités, qu'il n'y a pas simplement le roman de KPDP, mais au départ, c'est quand même aussi quelque chose qui remonte à l'enfance
À l'enfance, oui.
À l'adolescence.
L'enfance même, avec les films comme que jouait Jean Marais, qui passait à la télé à l'époque.
Il y a beaucoup de chaînes.
C'était pas des vieux films à l'époque, c'est ça différent. Oui, alors donc à l'enfance pour ça, plus tard c'est, mais ce qui a été vraiment déterminant pour moi, c'est la découverte des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, assez tardivement, j'avais 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça, où là ça a vraiment été un coup de foudre, et coup de foudre à plusieurs niveaux, d'une part pour ce roman en particulier, pour Alexandre Dumas en général, pour le KPDP, ce genre-là spécifique, qui m'a... Et c'est à partir de cette première lecture des Trois Mousquetaires que je suis allé vers différents auteurs. J'ai découvert Zébaco et tant d'autres. Et en plus, un coup de foudre pour l'époque, le début du XVIIe siècle, l'époque des Trois Mousquetaires, de Richelieu, du cardinal de Richelieu et de Louis XIII. Donc ça a vraiment été un coup de foudre littéraire qui m'a amené à ça. Et quand j'ai commencé à développer le projet des Lames du Cardinal, l'idée c'était de faire un roman de KPDP, mais à 90%, les 10% étant ce qui relève purement de la fantaisie. Mais l'idée, oui, c'était vraiment de poursuivre le sillon déjà bien creusé par Dumas d'abord, Zébaco ensuite, Paul Féval et tant d'autres.
Première question, Emmanuel, comment je dois prononcer votre nom déjà? Nink, bon. Emmanuel Nink, alors même question, pourquoi le roman dit de KPDP, même si comme avec Pierre on va voir que c'est plus compliqué que ça, mais oui, pourquoi ce genre-là?
J'ai tout copié sur PDF. Non, je n'ai pas fait exprès, il y a juste l'âge. Moi je devais avoir 10 ans quand j'ai découvert les Trois Mousquetaires, et ça m'a vraiment emballée, enthousiasmée. J'adore ça, et après je voulais être mousquetaire, donc j'ai fait l'escrime.
Ah, vous n'avez pas vu Milady?
Non, je n'aime pas. C'est pas mon personnage préféré, moi je voulais être D'Artagnan. Enfin, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être un garçon. Hein.
Ah oui, je demande.
Et j'en ai fait pendant un an, c'était l'escrime moderne, et c'était pas marrant. Je voulais faire l'escrime de spectacle. C'est rigolo. Effectivement, aussi après tous les films de KPDP, bah, tous les le bossu avec Jean Marais, les deux versions qu'il y a, je les aime tous les deux, les Rolf Flynn, ce genre de choses.
Enfin, la Tulipe.
Oui, aussi.
Le Brouillard, Philippe.
Ah non, moi.
Ah bon. Philippe Cavalier, même question, même exercice. Bah oui, oui. Je pense qu'on va avoir une réponse globalement qui va être assez similaire.
Bon, moi j'arrive au dernier, alors je ne peux que répéter ce qui a été dit. Je me sens extrêmement banal dans mes références et dans mon parcours. Voilà, en fond des années 60, au milieu des années 60, j'ai aussi grandi avec Jean Marais et Gérard Philippe à la télévision. Et puis, alors pourquoi vraiment le KPDP ? Bah parce que c'est un, il me semble, un espèce de très grande liberté où les personnages peuvent subir des métamorphoses qui me semblent extrêmement intéressantes, grimper et descendre l'échelle sociale de manière très rapide, dans un sens comme dans l'autre. Et puis parce que ça tranche évidemment tout le décorum du KPDP, tranche avec la modernité. Qui, moi, ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis bien obligé de subir, évidemment, mais l'imaginaire chevaleresque, ou l'imaginaire du KPDP, m'apparaît beaucoup plus vivifiant que celui que distille la modernité.
Alors, justement, c'était un des thèmes que je voulais aborder avec vous, parce que on est à une époque où tout va super vite, où on est à une époque où, finalement, en appuyant sur un bouton, on peut détruire la moitié de l'univers sans aucun problème. Là, on est quand même dans des types de romans où la rythmique devient forcément différente, finalement, de celle qu'on a l'habitude de côtoyer. Est-ce que le risque, c'est pas, justement, que ça soit trop lent qui veut s'y coller ?
Pour moi, le KPDP, ça va super vite.
Au contraire, s'il y a bien un genre de la cavalcade, c'est celui-là, quoi. Alors oui, c'est sûr qu'ils peuvent pas se donner un coup de fil pour se dire attention, le méchant est là. Il faut trouver des ruses pour que les gens arrivent au bon moment, au bon endroit pour tuer les méchants. Mais fondamentalement, non, là je suis entièrement d'accord avec Eva, avec Charlotte à l'évidence. Non, s'il y a bien un genre qui va vite et qui doit aller vite, c'est la tradition du se joint à la tradition du KPDP, celle du roman feuilleton. Feuilletoniste fin 19e, début 20e, où il fallait passionner le lecteur. On était exactement dans la même logique que maintenant les séries, les épisodes à la télé qu'on voit, où il faut avec des cliffhangers, des rebondissements, des coups de théâtre, tout ce qu'il faut. Non, au contraire. Là, c'est l'intrigue, c'est tagada, il faut que ça y aille. Quoi. Il faut, mais un KPDP, ça marche à la péripétie, ça doit être une belle mécanique en plus. Je pense qu'il y a un exercice de style très intéressant à maîtriser. Pour faire un roman de KPDP, plus toutes les immenses, grandes et fabuleuses thématiques qu'on a toujours, l'amour, la trahison, la loyauté,
la fidélité, la
vengeance et la liberté, comme on en parlait ce matin, dans une autre table ronde. C'est vraiment un genre, au contraire, je pense même qu'il est séduisant par des paradoxes apparents, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est un genre de la légèreté, voire de la frivolité, alors que il se coltine des thématiques parfois très très graves sur les trois mousquetaires, un temps après, et le vicomte de Bragelonne. On peut lire ça comme des romans de KPDP avec des bagarres, des poursuites, etc. Et en même temps, c'est un roman sur le désenchantement, l'amitié, le sens du devoir. Doit-on être loyal ? Est-ce qu'on doit être loyal vis-à-vis de la royauté ou vis-à-vis du roi ? Il y a tout un dialogue, il y a tout un laïus d'Athos là-dessus qui est vraiment poignant. C'est un genre qui est fascinant.
Charlotte, ça veut dire que quand on construit un peu le cadre du roman, on se dit il faut qu'il y ait un combat à un intervalle régulier.
Non, il faut qu'il y ait un combat quand c'est nécessaire. Mais alors le combat, c'est génial quand on construit. Parce que le combat, moi j'ai des manuels, j'ai des manuels d'histoire de l'escrime. J'ai suffisamment, je dirais, pratiqué de littérature de KPDP, y compris Arturo Pérez de Verté avec une...
J'allais le dire.
Voilà, une superbe réplique du Capitaine à la Tristée qui est en gros, un geste et bien le nom, on se bat pour tuer. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En plus, faut à la fois, je dirais, régler ça comme du papier à musique pour qu'on ait vraiment du rythme, pour qu'on ait vraiment un combat. Donc en général, je mime devant mon chat, je fais appel à mon mari en disant « mais tu veux, tac, 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 tac ». Et en même temps, avoir ce mélange de panache et de réalisme presque cru pour qu'il lui donne ce côté presque charnel.
D'autant qu'il y a des scènes dans le livre où Yana, le personnage principal, est obligée d'apprendre finalement l'escrime.
Oui, mais oui, parce que, enfin, elle, c'est vraiment c'est une gamine des rues, donc c'est la pupille de Descartes. Elle a été, elle est née dans les coins les plus pourris d'Amsterdam. Donc elle a, oui, elle a, en revanche, bon, elle a appris à se battre, un peu comme voilà, avec Griff, Crow, tout ce qui lui tombe sous la main. Elle a appris à tuer parce que de toute façon c'était une question de survie, donc c'est vraiment quelqu'un pour qui tuer elle ne pose pas trop de problèmes. En revanche, elle rêve d'apprendre l'escrime et elle est obligée d'avoir des cours d'escrime. Et les cours d'escrime, c'est pas.
Ah oui, ça rigole pas. Hein.
Ça rigole pas, c'est pas non plus ce qu'on voit. Moi, c'est un truc aussi, un film que j'adore qui est Masque de Zorro, l'apprentissage de Alejandro, c'est effectivement. Mais pour moi, c'était ça, c'était le côté. Et quand on commence l'escrime, et maintenant, je te sens que t'as eu comme moi le côté. Et alors là, je fais. Et puis, bah non, c'est rien, rien, rien. Et c'était ça qui était vachement intéressant à rendre. C'est vraiment une grande discipline.
Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que quand on vous lit, on entend les épées teintées. Et ça,
Alors merci beaucoup, ça c'est un très beau compliment.
Non vraiment, alors vraiment, c'est pour ça que je vous dis que vous m'avez volé une question, c'est parce que moi tout au long du livre je me suis dit mais c'est pas possible, elle a pratiqué l'escrime.
Oui, j'ai pratiqué l'escrime, oui.
Et ça se sent.
Merci, vraiment remercie.
Emmanuel, alors même question, voilà, oui, est-ce que par moment il faut effectivement tenir ce rythme qui est nécessaire au moment de la PDP?
C'est obligatoire, enfin, c'est inhérent aux gens, je pense.
Et ça passe par quoi? Il y a des petits trucs, il y a des mécaniques précises?
Je ne sais pas, j'ai écrit l'histoire comme elle venait, et après les personnages agissent tout seuls, et après s'il y a une mécanique derrière, je ne sais peut-être pas forcément.
Ce sont les personnages eux-mêmes qui dictent le rythme au final.
Peut-être.
Philippe, même question, parce que là aussi il y a du rythme dans le Marquis d'Angers, mais finalement. Ce sont des longues périodes. C'est aussi là où je voulais en venir, c'est que finalement, comme le disait Pierre, finalement, avec la trilogie de Dumas, on est quand même aussi sur des longues périodes. On n'est pas forcément sur des histoires très ramassées.
Non, là, sur le Marquis d'Angers, je précise.
D'autant qu'il passe un certain temps à la Bastille, en plus.
D'autant qu'il passe un certain temps à la Bastille. Mais une petite particularité, c'est que ce sont des mémoires. Donc, le Marquis raconte son histoire, elle commence très tôt. Commence pendant la guerre de 7 ans, il a 13 ans à l'époque et son père disparaît. Évidemment, il va, comme Télémaque, se jeter à sa poursuite et à sa recherche.
Alors juste pour ceux qui ne sauraient pas, la guerre de 7 ans, c'est quand?
C'est 1700. Vous m'oubliez une colle. Ça se termine en 1763 et ça commence donc en 1756. Voilà. Les mémoires étant rédigées à la première personne. Cela permet peut-être un dynamisme un petit peu plus facile, au moins pour l'auteur, qui n'a qu'à se vraiment glisser dans la peau du personnage pour raconter l'histoire. Et puis moi, j'ai un personnage qui est un sale gosse, en fait. Qui est vraiment un sale gosse, qui aime bien se mettre en avant.
C'est un fanfaron.
Alors, il a parfois le beau rôle, parfois le mauvais, mais il arrive toujours à tirer la couverture à lui et à faire en sorte de présenter ses aventures sous un jour assez glorieux, ce qui n'est pas toujours véritable. Donc là, c'est rédigé à la première personne et peut-être une facilité pour donner du dynamisme, pour donner du rejoignissement, puisqu'il y a un point de vue très affirmé. Et évidemment, quand on rédige à troisième personne, on est un petit peu plus distant, c'est peut-être un peu plus complexe de soutenir un rythme, je pense.
Alors maintenant, on va aborder peut-être avec Emmanuel et avec Pierre leur spécificité à tous les deux par rapport à Philippe et Charlotte. C'est que vous avez choisi d'instiller autre chose que le pur roman de KPDP dans vos écrits. Moi, je voulais savoir pourquoi. Parce que justement, Pierre, tu revendiques ton amour pour Alexandre Dumas, mais c'est quoi? C'est une volonté d'ajouter un supplément d'âme, c'est un choix artistique, personnel, une envie
Je crois que... Je ne sais pas. Déjà, assez naturellement, moi, ma pente naturelle va vers la fantaisie. C'est probablement générationnel. J'avais le bon âge, à savoir 11 ans, pour découvrir La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, hein. Au cinéma à sa sortie, à peu de choses près. Puis adolescent, j'ai eu le droit à Excalibur, Conan le Barbare, les premiers Indiana Jones, Tempête de Trafalgar. Enfin bon, c'est une génération bénie pour ce qui est de la fantasy, et donc je pense que ça... Bon, on a aussi eu Dard l'Invincible et quelques autres, et l'Épée Sauvage, hein, donc pas eu que de la chance. Mais à côté de ça, non, mais en effet, un cinéma d'aventure et qui relève finalement de la fantasy, ça fait pratiquement aucun doute, qui m'a imprégné et qui m'a probablement forgé mon imaginaire. Anecdote que je raconte parfois, il y a longtemps, quelques années, j'avais comme projet d'écrire un polar. Et puis je me suis mis à travailler sur l'intrigue, et au bout du 3 ou 4e chapitre, la maison du crime où tout se passait, c'était une maison hantée en fait. Donc je me suis dit, bon, ça va, c'était pas fait pour raconter des histoires réalistes. L'introduction de l'imaginaire, alors ça va être le merveilleux ou l'horreur ou le fantastique selon les séries, voire le steampunk pour d'autres. Est presque obligatoire, c'est vraiment ma pente naturelle. Ajoute à ça le fait que j'ai une telle admiration pour Alexandre Dumas et quelques autres que je veux bien être un continuateur, mais en mettant des dragons, je me disais que ça allait se voir un peu moins, que j'apportais quelque chose que, de fait, par...
ça évitait la comparaison.
Voilà, ça allait se voir un peu moins, que j'étais pas exactement dans la même catégorie... Et en plus, je suis, alors là, sincèrement, personne ne peut me détromper sur ce point, mais je suis assez convaincu que, en grosso modo, si la fantasy avait existé du temps de Dumas, il l'aurait écrit. Je pense qu'en l'occurrence, il serait scénariste de Taylor, pour Alexandre. Mais il n'y aurait pas résisté. Et d'ailleurs, il y a certains de ses romans qui frôlent avec le fantastique, la magie, le merveilleux. Donc je pense qu'il en aurait sans doute écrit. Donc oui, admiration pour Dumas fait que je fais essentiellement là que je fais un roman de la PDP, c'était le projet. Maintenant, avec les dragons, ça permet d'éviter la comparaison, le choc frontal, quoi.
En même temps, il a eu tellement de fils, tout dépend du degré de reconnaissance.
Oui, mais vrai. Un fils caché, en plus, ça fait très KPDP.
Pourquoi choisir la voie justement du merveilleux pour parler du roman de KPDP ?
Le merveilleux. Disons que Bordelin n'est pas purement un roman de KPDP, il y a un peu de conte de fées dedans, un peu de steampunk, enfin voilà. Disons que j'aime beaucoup la confrontation entre la réalité et la fiction. Quand un personnage sort d'un film, quand un personnage rentre dans un livre, qu'est-ce qui peut se passer d'être confronté à la réalité ou d'être confronté à des règles et des clichés fictionnels, qu'est-ce que ça donne?
Parce que vous êtes la seule, la série 4, à nous emmener vraiment dans un monde qui n'est pas le nôtre, pour le coup.
Oui, c'est vrai que c'est pas purement historique. Voilà. Le roi, c'est Louis XXII, donc...
écoutez, il arrivera peut-être.
Mais... Non, c'est du merveilleux. Oui. Il y a des accents de KPDP parce qu'évidemment, mon héroïne sait se battre comme un homme et désarmer quelqu'un en deux passes. Il y a ça, il n'y a pas de souci, mais c'est du merveilleux en plus.
Alors justement, vous qui vouliez D'Artagnan, pourquoi une héroïne alors ?
Mais parce que j'ai toujours estimé, enfin maintenant c'est peut-être plus le cas, mais je n'ai pas trop de contemporains, je suis désolée, mais que dans les romans que je lisais quand j'étais gosse, les super-héros, bah, c'est toujours des garçons. Donc au bout d'un moment, la fille, si elle pouvait sortir elle-même des situations embarrassantes, ça pourrait être chouette. Et bah, là par exemple, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que mon héroïne Roxane, c'est elle qui se sauve toute seule, et quand le prince charmant arrive, c'est trop tard.
Bah oui, comme la cavalerie. Charlotte, là aussi, il y a une dimension dans Vénénum très féministe, au travers du personnage de Yana, mais pas seulement d'ailleurs.
Je crois que c'est un peu moi aussi. Donc, en plus, c'est écrit, c'est écrit à la première personne. Donc, j'ai généralement des personnages qui sont des personnages, des héros, des héroïnes, plus que des héros. Enfin, moi, mon grand défi maintenant, c'est d'écrire en mettant dans la première personne, c'est compliqué. Et puis, la Fronde, c'est une période, en fait, c'est une période pendant laquelle les femmes se sont beaucoup habillées en garçon et se sont baladées l'épée au côté, globalement. Alors, c'était plutôt les filles de la noblesse qui faisaient ça. Donc, moi, c'était vraiment l'occasion de montrer que puis Yana, elle est. Yana, c'est. Pour moi, c'est une.
C'est un garçon manqué ?
Non, c'est une fille. C'est une fille qui se fout complètement de qui est la pupille de Descartes et qui se fiche complètement quelque part d'une fille ou un garçon.
Mais elle s'en fiche, mais elle a quand même des. Elle a quand même avec Descartes justement, puisqu'il y a
bah,
des
moments, elle a cette discussion.
Oui, voilà, c'est
elle
ça,
elle a quand même. Discussion, mais parce que Descartes était tout génial qu'il était, il avait de temps en temps des réflexions qui étaient quand même un peu pas piquer des verres. Qu'il a eu quand même des parmi ses correspondantes et amies, la princesse Elisabeth, qui était une femme absolument géniale, qui passait son temps à lui écrire en disant mais putain, je suis un peu trop stupide pour comprendre, mais est-ce que vous ne croyez pas que et puis c'est une période aussi donc les précieuses n'existent pas encore tout à fait, commencent à se créer, où globalement les femmes, malgré donc cette liberté pour les plus nobles d'entre elles, c'était quand même le mariage des enfants, mourir en couche, ou de la syphilis quand elles étaient un peu plus prostituées. Certaines qui étaient très belles, et qui, bon, il y a toujours eu des courtisanes, donc c'est vrai que j'en fais la fille de, semble-t-il, Marion Delorme, qui était entre autres la maîtresse de Richelieu II. Mais voilà, mais moi, l'intérêt de Diana, c'était cette fille qui est ce qu'elle est, qui applique aussi la pensée de Descartes en disant. En gros, j'existe, c'est ce qui importe. Donc, mon âme importe plus que mon corps. Et en même temps, elle est extrêmement féministe parce qu'elle supporte pas l'idée justement d'être en permanence renvoyée à ces mais vous êtes une demoiselle, mais vous êtes ceci, mais vous êtes cela. Mais en même temps, la personne qu'elle rencontre, Gabrielle, quelque part, pourrait être son opposé. Et Gabrielle. Elle, je pense qu'elle se posera même pas la question de savoir si elle s'habille en homme ou pas, c'est pas son problème. Gabrielle est aussi capable de tuer un homme, mais en utilisant un pistolet, parce que c'est quand même plus moderne, il faut pas pousser. Et elle n'a pas ces codes-là non plus.
C'est vraiment l'intrigante, elle.
Oui, c'est l'intrigante, c'est gentille quand même, Gabrielle.
Elle a un cœur tendre.
C'est tombe amoureuse, mais Gabrielle, pour moi, toutes les pourrait devenir une milady, mais pour l'instant c'est pas une milady, pour l'instant c'est une espionne, c'est une fille qui est quand même assez gentille, qui est très courageuse, et qui est qui est l'autre facette de ce féminisme qui existe dans Vénéna.
Philippe Cavalier, est-ce que justement, puisque tous vous nous avez évoqué les films des années 50, l'humour c'est important dans un roman de KPDP?
Ah, c'est une très bonne
question. Il y a des choses très drôles dans le Marquis d'Angers.
Moi, j'ai voulu en tout cas faire un héros qui soit vraiment drôle. À dire vrai, l'origine du Marquis d'Angers se situe non seulement dans toutes les références qu'on a pu déjà évoquer, que je partage évidemment à 100%, mais il a une petite origine britannique également. Cette origine britannique, c'est un auteur qui est assez peu connu en France, voire véritablement méconnu, qui s'appelle George MacDonald Fraser, et qui a écrit entre les années 60 et 80 une série que moi je trouve extrêmement drôle, qu'un éditeur français a essayé d'initier, mais ça n'a eu aucun succès. Cette série, ça s'appelle la série Flashman, et ça raconte l'histoire d'un officier britannique qui couvre en gros toute la période victorienne. Et là aussi, ce sont des mémoires, donc rédigées à la première personne. Et cet officier britannique a vécu toutes les guerres de l'Empire et de la période de la colonisation de l'Afghanistan, des Indes, etc., sous l'impératrice Victoria. Et en fait, il a une aura magnifique. C'est un guerrier reconnu par tous. Il a la Victoria Cross, etc. Et il arrive à 80 ans. Et en fait, il décide de tout lâcher, de lâcher la vérité. Il raconte son histoire et en fait elle est au rebours de ce que tout le monde pense, c'est-à-dire qu'il a été toute sa vie un lâche, un opportuniste, un trouillard absolu. Enfin bon, bref,
c'est quelqu'un des Monty Python.
C'est un peu ça, c'est vraiment quelqu'un d'épouvantable. Et il raconte ça et c'est lui. C'est extrêmement bien fait, c'est très très drôle. Et j'avais envie de faire mon petit flashman à moi, un petit peu. C'est-à-dire que mon personnage n'est pas aussi lâche que le sien, mais en tout cas il a. Il est toujours propulsé dans des situations qui, oui, confinent à l'humour parfois.
Il est impétueux.
Il est très impétueux. Il a une morale très particulière, qui est une amoralité complète. Il n'aime pas beaucoup.
Il a perdu son papa très tôt.
Il a perdu son papa, c'est une circonstance relativement peu atténuante.
Pas tant que ça, on a l'impression au début quand même que c'est un garçon plutôt bien élevé.
Oui, c'est un garçon assez timide au départ, mais il va être précipité très vite dans plein d'aventures. Il va être trahi par tout le monde, par les femmes, par les curés, par les officiers. Donc il va générer une méfiance vis-à-vis du genre humain total. Et donc ça va lui donner une sorte d'ironie permanente et de légèreté permanente et d'absence de moralité qui conduit nécessairement très souvent au comique.
La truculence des personnages, c'était important. Parce que là, on parle du marquis, mais tout autour de
lui. Alors, je pense que c'est un trait caractéristique du KPDP, comme de la fantasy, c'est évidemment de proposer des personnages qui, comme disait Robert Howard, doivent être toujours plus grands que nature. Quel est l'intérêt de faire subir au lecteur des aventures de personnages fallos? Non, il faut que le héros, l'héroïne, les opposants, évidemment, aient tous des gueules et des figures et des psychologies extrêmement fortes. On est là pour s'amuser, on est là pour distraire le lecteur, on est là pour qu'il ait envie de tourner les pages. Bien sûr, il faut un petit peu forcer le trait, mais c'est un plaisir aussi de fréquenter tous ces personnages.
Emmanuel, là aussi, sur vos personnages, les traits de caractère qui se sont imposés, c'est un système de valeurs ou est-ce que justement ils peuvent aussi avoir des défauts?
Il y a deux sortes de personnages. Il y a les personnages réels, dans le réel, donc, et les personnages fictionnels de bord de marche qui, eux, sont à l'origine des clichés, des stéréotypes qui sont la princesse, le méchant, le pirate, tout ça. Et ces personnages-là, au départ, ont effectivement leur propre système de valeurs. Par exemple, la princesse provoque en duel quiconque l'insulte un petit peu, lui marche sur les pieds, et ainsi de suite. Mais par la suite, avec la confrontation avec les personnages réels, ils vont évoluer et changer.
Pierre, même question sur les traits de caractère des personnages. Est-ce que justement il y a des archétypes du roman de KPDP?
Honnêtement, oui. Et puis pas seulement pour ce qui est des personnages, mais pour des situations. Je rejoins vraiment ce que disait Philippe à l'instant, c'est que en gros, si on peut mettre les curseurs et les potards à 11, mettons-les à 11. Quoi. Il faut vraiment en profiter un maximum. En plus, la tradition est là pour nous soutenir, Cocardas, les Pasquale, dans le Bossu, c'est des personnages qui sont quand même assez haut en couleur, donc profitons-en. Et puis, imaginons plutôt le fils caché d'un roi ou du cardinal de Richelieu, plutôt qu'un type qui est maçon le jour et tard la nuit. Quoi. C'est quand même moyen de. Profitons-en, on a tout pour faire des aventures hautes en couleur, le genre veut ça. En tout cas, je sais que moi, c'était un projet mais clairement assumé. Je savais que, quitte à aller mettre en scène des archétypes, voire des situations clichés, je voulais qu'il y ait une poursuite en carrosse, qu'il y ait des types qui se poursuivent sur les toits, de préférence de nuit, et si ça peut être, et s'il peut pleuvoir, c'est aussi bien.
Qu'il y ait des escaliers quand il y a un duel.
Exactement, quand on se bat à l'épée, pourquoi ne pas grimper sur la table,
des grands rideaux aussi.
Bien sûr, la porte est ouverte, mais sortons par la fenêtre, la l'auberge. Bon, tout ça, moi j'avais vraiment envie de me colter ça, quitte éventuellement à renouveler un peu le genre à un moment ou à un autre, mais en même temps le respecter. C'est pas la peine de faire un KPDP si c'est pour le vider de sa substantifique moelle. Là je trouve qu'il fallait. Il faut y aller franchement. C'est d'ailleurs vrai de tous les gens. Quoi. Il faut les aimer pour bien les faire, il faut les aimer, il faut les respecter, éventuellement en connaître leurs faiblesses, éventuellement des facilités. Mais pour le KPDP, allons-y, il faut que ce soit grandiose. Et s'il doit y avoir un complot, c'est le roi, la royauté, le monde. Enfin bon, on n'est pas là pour raconter des petites histoires qui peuvent être fascinantes.
Du voisinage.
Voilà, c'est autre chose. Il vaut mieux échapper aux faits divers.
Charlotte, c'est vos méchants, moi, que j'ai trouvé extrêmement archétypaux.
Et oui, mais c'était là pour ça. Et franchement, le méchant Balafré, mais il est...
J'ai un traître espagnol.
Mais voilà, mais c'est exactement ça. Il faut du panache, il faut que les méchants, ils ont du panache. Bon, ça, là, on voit le type avec son sixième doigt. Hein, il est là, on sait que c'est le méchant, mais c'est ça qui est génial et qui est jouissif. Hein. C'est vraiment de pouvoir se dire, on va pas me dire, je fais du cliché, c'est fait pour. C'est fait pour, et vraiment, justement, de pouvoir poser le cliché, là, mon traître espagnol qui est de toute façon... Non, mais c'est vrai.
Pierre, c'est pas sympa le métier.
Mais non, il a raison.
J'ai un prêtre espagnol dans mon bouquin.
On a tous des prêtres espagnols. Qui n'a pas son prêtre espagnol, même s'il n'existe pas. En vrai, en fait, quelque part, on peut le trouver.
C'est un archétype.
Mais voilà, il a l'œil torve, il a la petite barbiche. De toute façon, on a tous les films qui reviennent en truc. Et il y a le borgne.
Oui, j'ai aussi un
bronze. Il y a un le type qui a le cheveu filasse, est... comme dans Bossu, qui est horrible. Ils sont là, ils nous attendent.
Pérol.
Oui, c'est ça, c'est Pérol. Et je trouve que quand ils sont. Enfin, quelque part, ils n'attendent que nous. Ce serait dégueulasse de ne pas les faire apparaître au moment où clin d'œil. Et même en passage.
En tant que lecteur ou spectateur, on adore les détester. Quoi.
Mais oui.
Évidemment qu'on a envie de détester Pérol. Ou...
D'autant que c'est second rôle, quand on parle des films, mais c'était des acteurs qui étaient extrêmement populaires. Qui jouaient, parce que Pérol, si je me souviens bien, c'est Jean Le Poulain, je crois, dans le Bossu. Donc c'était un acteur de théâtre extrêmement populaire. Philippe, dans Le Marquis d'Urgé, il y a un personnage justement qui correspond vraiment à ça, c'est Balaguin.
C'est le valet du Marquis. Ben oui, lui, il est clairement inspiré par des personnages comme Blanchet. Le fidèle valet qui suit son maître absolument partout, quoi qu'il arrive, qui le tire des mauvais pas, qui parfois est même très souvent plus intelligent et plus généreux. C'est un peu la conscience du Marquis, qui encore une fois un personnage à la moralité très élastique. Et en revanche, lui est accolé à un valet qui le rappelle au bon ordre et à la bonne morale. Mais c'est vrai que c'est un archétype, et là encore, c'est
il n'a pas que ça comme trait de caractère.
Non, il est un peu polyglotte, alors voilà.
Il est gentiment autiste.
Au départ, il est gentiment autiste. Voilà, c'est un grand benêt qui se vend comme guide touristique, en fait, aux voyageurs anglais qui débarquent à Calais pour faire leur grand tour, aux nobles anglais qui font leur grand tour à la fin du XVIIIe siècle, qui visitent l'Europe. Et lui, il est à la fois autiste, effectivement, mais il a aussi des dons. Et il est polyglotte, notamment. Donc,
une mémoire faramineuse.
Et donc, parce que mon marquis voyage beaucoup, et comme il a sa mère qui est écossaise, il va passer toute une partie de sa jeunesse dans les Highlands. Puis quand il va revenir, il va tomber sur ce personnage qui va le suivre tout au long de ses aventures, et jusqu'à très loin, qui va être d'une fidélité exemplaire, et qui, encore une fois, agit comme une sorte de Jiminy Cricket pour lui. Malgré ses maladresses et malgré ses faiblesses de départ.
Emmanuel, c'est un univers que vous allez continuer à développer lors de Marche
Plus largement, oui, on va dire. Pour moi, Bord de Marche est un monde de fiction, mais qu'il y en a beaucoup d'autres derrière qui manquent à être explorés.
Donc ça veut dire qu'on va retrouver, voir évoluer vos personnages aussi
Non, parce que j'ai construit de telle manière à ce qu'on puisse retrouver quelques personnages, mais par exemple, un personnage qui n'était absolument pas du tout important dans Bord de Marche pourra être le héros d'un autre, et ainsi de suite. Je voudrais que ce soit indépendant les uns des autres.
Mais toujours avec cet esprit, justement, de conte de fées, de... Je sais pas comment vous voudriez vous le définir, mais voilà, de cet univers un peu particulier.
C'est l'univers de la fiction, des rêves.
De vos rêves
aussi, oui.
Pierre, l'envie de continuer là aussi dans cette voie, ou finalement, ça y est, le genre est exploré et il faut passer à autre chose?
Je vais passer à autre chose, mais certainement pas parce que le genre a exploré. Il reste encore quelques continents.
Il y a encore quelques archétypes à développer.
Oui, exactement. Non, moi je passe à autre chose. Là, par contre, c'est juste moi qui me suis bien fait plaisir. J'en ai écrit 3 bouquins sur les lames. Ça m'a pris pas loin de 4 ans, ou voire 5. Donc, il est temps de passer à autre chose. Mais je ne serais pas surpris du tout d'y retourner un jour. En tout cas, de retourner au genre de KPDP, peut-être pas au lames. Mais oui, j'ai quand même ça en moi. C'est vraiment mon genre de prédilection. J'ai envie de me colter à autre chose, mais ça, j'y reviendrai. Et en tout cas, je continuerai à en lire et en regarder à la télé, à en diffuser des épisodes de même si un manga sur les 3 mousquetaires. C'est pas possible, même ça je l'ai. Donc,
le mec, il était
dénoué
là,
le truc. Ah non, pas Albert, le 4e mousquetaire, ça sert pour autre chose.
Hier soir, en zappant, j'ai pensé à vous tous parce que je suis tombé sur les Charlots contre le cardinal.
Ça, évidemment, je l'ai en DVD, c'est tout, c'est inévitable.
C'est particulier.
Non, c'est...
Même la fille de D'Artagnan qui est mauvaise.
Ah, tout le monde, c'est si mauvais que ça.
C'est-à-dire qu'elle me gêne beaucoup.
Mais j'aime bien la manière dont ils se battent dans la rue.
Claude Rich est génial.
Il y a quelques dialogues qui sont magnifiques. Voilà. Je suis entièrement d'accord sur la médiocre qualité de jeu de la demoiselle, Sophie Marceau.
Le duo Claude Rich, Jean-Luc Bidou, c'est énorme.
Non, puis Sami Frey, c'est absolument extraordinaire, je trouve. J'aime beaucoup la manière dont ils se battent, et même lorsque Sophie Marceau justement manie l'escrime, la rapière, rapidement elle la tient à deux mains parce que c'est long, une rapière, quoi, ça pèse son poids. Je trouve qu'il y a un côté réaliste comme ça dans les combats qui est assez bien. Pourquoi on parle de ça?
Est-ce qu'on parlait des trucs qu'on voit quand même régulièrement?
Ouais, donc oui, tout ça pour dire que je vais...
Et j'ai Oscar.
J'y retournerai.
Charlotte, toi qui persévères.
Si j'ai dit Oscar, à la fois j'ai dit Oscar.
Envie de persévérer dans le genre.
Mais en fait, moi j'ai envie de faire un 2 ans après déjà. Donc on en a parlé avec mon directeur de collection et j'ai dit, moi j'aimerais bien qu'elle continue avec ce personnage parce que je trouve qu'elle a plein de possibilités. Que Gabrielle, effectivement, a le bon potentiel de triple jeu ou de cadeau de jeu. Oui, mais en même temps, pour l'instant, elle reste sympa et il y a quelques. Voilà, et c'est le moment de la fronde et 2 ans après, ça sera. Voilà, je crois qu'en 52, Mazarin est exilé, il y a plein de choses à faire. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à inventer. Le capitaine von Fries, moi je l'adore, c'est vrai que c'est un personnage masculin qui, pareil, est assez archétypé, mais je l'adore, c'est mon attristé à moi. Et j'ai pas envie de le laisser tomber, mon attristé à moi. Voilà. Donc il y a ça, il y a plein de choses qui font, j'ai vraiment envie de continuer. Et puis je trouve que ça a du panache et ça donne la pêche d'écrire du KPDP. Ça met vraiment de bonne humeur.
Le Marquis, c'est un triptyque, c'est volontaire.
Alors, le Marquis, c'est pour l'instant un triptyque, puisque l'ouvrage que vous voyez là, c'est la compilation de trois volumes, qui donc nous emmène de la fin de la guerre de Sept Ans jusqu'à la bataille des Pyramides. Ça se termine en 1798, et le Marquis fait grâce de toutes ses aventures, parce qu'il voyage beaucoup, mais se retrouve non pas dans l'armée française, mais contre l'armée française, parmi les Mamelouks. Et la dernière phrase, c'est lui qui lance la charge des cavaliers mamelouks contre les armées de Bonaparte. Et en fait, je vais terminer la série avec un quatrième volume qui va couvrir la période napoléonienne. Et ensuite, j'arrêterai là pour ce personnage. En revanche...
Parce que là, il va commencer à être un peu âgé en plus.
Parce que là, je vais l'emmener jusqu'à 65, 70 ans. Il aura fait son
temps. Il n'a pas eu une vie facile en plus.
Beaucoup de souvenirs, mais on va l'arrêter là. En revanche, je crois mousquetaire un jour, mousquetaire toujours. On a ça dans le sang. Et je ne me vois pas arrêter d'écrire des ouvrages de KPDP. Alors, j'ai quelques projets, ce sera certainement une période différente. Moi, j'aime beaucoup le 18e siècle, évidemment. Mais je me retrouve très intéressé par ce que tu disais. Charlotte, sur la période 17e, et j'ai quelques idées sur un beau personnage qui est au départ un personnage historique, qui n'est pas très connu, qui s'appelle le chevalier Digby, qui était curieusement un ami de Descartes. D'accord. Et ce personnage qui était aussi un pirate, il a mille vies en une, il commence à bien me plaire, et je crois que je vais le fréquenter beaucoup ces prochaines années.
Je vais savoir aussi, les uns les autres, comment... votre public, qui parfois peut être un jeune public, réagit au genre, parce que peut-être qu'Alexandre Dumas aujourd'hui n'est peut-être plus aussi lu que par nos générations, et peut-être que vous leur faites découvrir ce genre de KPDP. Quelles sont les réactions, Emmanuel, que vous avez
Je ne peux pas dire, moi, mon roman est sorti en avril, je n'ai pas vraiment beaucoup discuté avec les gens.
Invente
Non, je ne saurais pas dire, mais je pense que ça... Enfin, tout ce que j'ai pu discuter, que ça plaît encore. Hein. Enfin, je ne pense pas que ce soit un genre qui...
Qui soit générationnel, comme on en donne peut-être un peu trop l'impression.
Non, je pense qu'il y a tellement de richesse dans ce genre que ça peut plaire encore pendant longtemps. Hein.
Pierre,
bon, déjà, moi, je vois que... assez régulièrement au cinéma sort un film de KPDP ou un film estampillé Trois Mousquetaires pour abusif que ça soit à l'occasion. Mais donc déjà ça prouve que ça bouge encore pas mal. Moi j'ai vraiment eu aucun problème vis-à-vis des jeunes générations puisque j'ai plus imaginé des lycéens pour les Dames du Cardinal donc. Ou alors ils sont très très badouchistes, ou alors c'est que ça leur a plu plus ou moins. Et puis sinon, j'ai parfois découvert, enfin on m'a parfois dit, et ce qui m'a fait très 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 plaisir, que les lames avaient donné envie de découvrir Alexandre Dumas, et ça avait dirigé les gens vers les trois mousquetaires. Je pense que c'est le genre est encore vivace, évidemment il n'est plus ce qu'il était à l'époque où sortaient, étaient produits en France les films dont nous parlions, avec Jean Marais ou d'autres, mais le genre est encore très très bien armé pour plaire, d'autant en particulier, quand on parlait du rythme tout à l'heure, à cause de ça, ou grâce à ça, c'est que c'est un genre qui va vite, qui est généreux, qui invente plein de personnages, profusion d'actions, de coups de théâtre, qui faut mouiller la chemise pour écrire un bon café d'été. Donc le lecteur, il en a pour son argent, normalement on s'ennuie pas.
Charlotte, les réactions.
En fait, moi, pour l'instant, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai surtout eu des réactions d'adultes qui ont adoré et certains m'ont dit mais est-ce que c'est pas un peu trop la langue et pas un peu trop difficile pour des plus jeunes? Donc, ça a provoqué un tollé de réactions. C'est mal du tout, disons, il faut juste arrêter de prendre les ados pour des imbéciles et leur servir de la bouillie, quoi. Donc, j'en sais rien. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Que le genre, effectivement, il y a eu ces mousquetaires steampunk l'année dernière, mais il y a aussi les Pirates des Caraïbes, et les Pirates des Caraïbes, c'est du café d'épée, et je pense que s'ils ont continué à en faire, et que ça continue à faire sa comble, c'est bien qu'il y a vraiment il y a un nouveau souffle, et on écrit aussi, on écrit du café d'épée du 21e siècle, parce qu'on a une plume du 21e siècle, et je pense que quand on prend plaisir à écrire quelque chose, normalement c'est quelque chose qui
Et j'ai une question que j'ai oubliée, qui devait être très importante.
Pas grave, on va se débrouiller tout seul.
Non, parce que c'était important. Oui, si. Je voulais vous faire une critique, puisque vous m'avez dit que vous avez essentiellement des critiques d'adultes. C'est trop court.
Mais c'est pour ça que j'aimerais bien faire 2 ans après. Voilà, ma grande idée, c'est 2 ans après.
Ah oui, j'étais très très frustré. Même chose, le marquis, réaction, qu'est-ce qu'on a pu vous
dire? Le marquis est destiné essentiellement à un public adulte tout de même.
Oui, parce qu'il est très libertin quand même, le garçon.
Il aime beaucoup les femmes, mais je le rends bien.
On peut commencer tôt, hein.
Il y a des endroits.
Beaucoup les femmes aussi.
Oui, mais là, il y a des endroits qui ne sont pas très fréquentables. Il y a quelques bordels londoniens qui sont quand même assez glauques.
Un petit peu épicé parfois. Donc, des réactions plutôt adultes. Mais qui me disent, et moi ça me fait très plaisir, et vraiment j'écris pour entendre ça, on me dit assez souvent qu'on retrouve ses 15 ans en lisant ce genre de littérature. Moi je retrouve mes 15 ans quand je l'écris, et si les lecteurs peuvent rajeunir un petit peu au fil des pages, moi je suis absolument ravi, c'est ce que je souhaite entendre vraiment.
Bah, vous le voyez, c'est un genre... effectivement encore très vivace, très vivant, très inventif, parce que finalement, vous avez là 4 auteurs qui vont vous proposer vraiment des romans, évidemment, qui ont des traits et des lignages communs, mais qui en même temps vont traiter ce fameux roman de KPDP, vous l'aurez compris, qui au moins a marqué 5 personnes ici, au moins en tout cas, si ce n'est plus avec vous, mais qui sont traités sous des angles, sous des aspects, sous des manières de vivre, d'exister, sous des traitements plus ou moins humoristiques également, mais en tout cas toutes avec énormément d'aventures, énormément de rebondissements et un plaisir commun en tout cas à les lire les uns et les autres. J'espère que vous allez partager ce plaisir de les lire et de retrouver également les auteurs sous la bulle du livre pour continuer pourquoi pas les discussions et puis évidemment acheter les livres et continuer à poursuivre cette passion pour le roman de KPDP.